Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer ce matin. Aujourd'hui, c'est le grand sujet. Dès qu'il y a quelques semaines, nous avons annoncé que nous allions étudier pendant plusieurs dimanches le retour de Christ, certains y pensent déjà à ce message d'aujourd'hui, le millénium. Je marche sur des œufs. Le millénium, c'est quoi ? 1000 ans pendant lesquels Christ règne. Le diable est empêché et les chrétiens ressuscités règnent avec le Seigneur. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous croyez cela. Vous devez le croire, c'est dans la Bible. Nous voulons être des chrétiens bibliques. La Bible annonce pendant 1000 ans, Christ règne, le diable est empêché, pas mort, mais limité dans son activité, et les chrétiens ressuscités règnent avec le Seigneur. Nous allons le pencher aujourd'hui sur le livre de l'Apocalypse, c'est assez facile à trouver, c'est le dernier livre dans la Bible. Et nous n'allons pas lire tout le livre, nous allons lire une partie. En préparant pour cette série de messages, j'ai lu l'entièreté du livre de l'Apocalypse, ça ne prend pas tellement longtemps, 2 ou 3 heures, vous avez tout lu. Mais en commençant, on ne va pas le tout lire aujourd'hui, on va juste lire le premier verset du livre pour présenter un petit peu le livre avant de regarder notre premier message dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1. Alors ce sera très utile d'avoir une Bible avec vous ce matin. Il y en a à disposition à côté de Franz là à la porte. Donc si tu n'as pas une Bible, n'hésite pas à en prendre pour cette prédication. Ça va aider à comprendre de quoi on parle. Apocalypse 1, verset 1, vous voyez ça ? Déjà, amen. J'ai encore rien dit, frère. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le livre de l'Apocalypse est une révélation. Le mot Apocalypse, en fait, signifie révélation. C'est une révélation de Jésus-Christ. Et Dieu la lui a donnée, pourquoi ? Pour montrer ce qui doit arriver bientôt, les choses à venir. Mais pas seulement les choses à venir. Si vous regardez plus loin, au verset 19, il est dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Jean doit voir des choses qui sont, qui existent déjà, et pas seulement des choses qui sont à venir. Alors nous pensons à tout ce qui touche au retour du Seigneur Jésus. Si vous n'étiez pas là les dernières semaines, soyez les bienvenus aujourd'hui. Je récapitule juste pour dire que Jésus, qui est mort à Jérusalem, ressuscité 3 jours plus tard, a annoncé qu'il reviendra. Nous ne savons pas quand, il ne nous a pas dit quand ce sera, mais nous l'attendons depuis ce jour parce que ça c'est l'étape suivante, c'est que Jésus revienne. C'est une grande joie pour les disciples. Notre espérance est fondée sur cette promesse. Quand il reviendra, il réglera toutes choses. Alors lisons maintenant Apocalypse chapitre 20. Je vous préviens qu'il y a un langage symbolique dans ce texte qui est utilisé dans ce livre, mais écoutons-le attentivement. Chapitre 20, je le lis dès le début du chapitre. C'est Jean le disciple qui écrit. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà notre lecture. Pour vous donner une idée du message d'aujourd'hui, je vais juste faire un petit survol de ce qui nous attend, pour expliquer un peu où on va. D'abord, on va parler des trois points du millénium. Puis, je vais présenter deux points de vue différents du millénium qui sont répandus aujourd'hui parmi les chrétiens. Et puis, on va passer un peu de temps à réfléchir à comment Dieu nous bénit à travers cette parole, ce texte que nous venons de lire, et comment Dieu va nous fortifier également dans notre foi. Donc c'est un peu là où on va. Alors, qu'est-ce qui se passe en Apocalypse 20? Quels sont les trois points du millénium? Quelles sont les choses qui sont évoquées là? Il y a en fait trois sections dans les versets que nous venons de lire. Les 1000 ans qui sont décrits. En fait, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où 1000 ans sont mentionnés, sauf quand Pierre dit que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Mais c'est tout concentré sur ce passage, les 1000 ans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a trois choses qui caractérisent cette période, les trois sections que nous venons de lire. D'abord, le diable est lié, versets 1 à 3. Il s'agit bien de lui. Il est décrit d'abord de manière symbolique, comme un dragon ou un serpent. Et puis, il est décrit de manière littérale, nommé comme le diable, Satan, l'adversaire de Dieu. Alors, je sais que dans la culture populaire, le diable n'est plus pris très au sérieux. On dit par exemple qu'un gâteau est diablement bon ou que la Belgique est représentée par des diables rouges. La Bible dépeint une autre image du diable comme ennemi de Dieu et ennemi aussi de l'homme. Cet adversaire apporte des tentations, des mensonges et des divisions. C'est ça son travail, c'est ça son œuvre. Et voici qu'il est lié. Il est jeté dans l'abîme. Alors nous allons parler de l'abîme. Parfois, on évoque, je pense, ce mot en parlant à nous, une sorte de gouffre dans lequel on est, l'abîme de mes souffrances. Mais ici, c'est utilisé de manière assez technique. C'est une expression imagée, bien entendu, mais c'est une expression qui est utilisée pour décrire un lieu où les démons habitent. C'est une sorte de cage. Quand Jésus a chassé un groupe de démons, ils étaient légion, en Luc 8, ceux-ci ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Intéressant que ce mot « l'abîme » est déjà utilisé ailleurs. Et ici, en Apocalypse 20, Satan y est. Au verset 7, c'est sa prison. La deuxième chose qui se passe pendant les 1000 ans, c'est que les chrétiens vivent et règnent. La description de ces gens souligne leur autorité. Regardez le verset 4, il y a des trônes. Ils ont reçu le pouvoir de juger. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils ont refusé l'autorité et le règne du faux Christ. Maintenant, ils participent au règne du vrai Christ. Et pour régner, ils doivent être vivants. Mais au départ, ils sont morts. On pense à tous ceux qui sont morts pour Christ. Vous vous souvenez comment Marc Van de Weer, lors de notre convention, avait évoqué le fait que les témoins, on les appelait des martyrs, parce que le mot grec était pareil, mais ça, en fait, c'était souvent la réalité, que ceux qui témoignaient pour Christ devenaient des martyrs pour Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est mention, par exemple, d'un homme qui s'appelait Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort dans une des églises. Les personnes à qui Jean écrivait étaient confrontées à cette mort. Et donc, ils ne vont pas rester morts, ils reviennent à la vie et ils ne mourront plus. Mais ces versets nous avertissent, n'est-ce pas, qu'il y a une deuxième mort. Et c'est cette deuxième mort à laquelle il faut échapper. Troisièmement, la révolte et la punition finale figure cela. Alors finalement, c'est à la fin des 1000 ans, verset 7, quand les 1000 ans sont passés, Satan est relâché. Notez que tout ceci est sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui décide qu'il va limiter le diable dans son activité. Et c'est Dieu qui décide quand le diable peut être relâché, quand le diable peut sortir de sa prison. Ce n'est pas le diable qui fait ce qu'il veut. Mais son premier réflexe, une fois qu'il est relâché, avec sa nouvelle liberté, est d'attaquer les chrétiens. Et là, on pense à ce siège dont on a parlé il y a 2 semaines, la dernière fois, mais ça ne se passera pas comme ça. Quand le peuple de Dieu est encerclé par les armées, par l'opposition à Dieu, eh bien, un feu descend et détruit les ennemis de Dieu. Le diable, enfin, va être détruit et vaincu. L'enfer n'est pas un endroit où le diable s'amuse. Ce n'est pas le diable qui fait souffrir les autres, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Lui aussi, il sera tourmenté. C'est une note très sobre, donc en ce verset 10, et il faut y prêter attention. L'enfer et le diable ne sont pas des inventions du Moyen-Âge pour que les gens craintifs participent à l'Église. Non, ce sont des réalités spirituelles que Jésus et ses disciples ont annoncées. Et Jésus seul connaît la portée, l'étendue de ces choses. Alors voilà, j'ai fait l'esquisse de ces 1000 ans, de ces 10 versets qui décrivent les 3 éléments principaux de cela. Maintenant, on va voir 2 points de vue différents du millénium. Soit cela se passe à l'avenir, sur terre, ou cela se passe maintenant au ciel. En effet, Apocalypse 20 décrit des choses, ce qui se passe, mais ne dit pas quand ni où. Et là, c'est gênant. S'il avait dit ils étaient sur terre avec Jésus, on serait sûr. Si le texte disait cela s'est passé au ciel, on serait aussi sûr. Mais on n'a pas cette info. Donc comprenons que cela peut être compris de 2 manières différentes. Par des chrétiens qui sont informés, intelligents, studieux, respectueux de la parole, des 2 côtés. Option 1, ça se passe sur terre. Pendant 1000 ans, littéralement 1000 ans, 365 jours, période de 1000 ans fixée sur terre, après le retour de Jésus-Christ donc, il revient et il règne sur terre, et il s'agit d'une résurrection corporelle. Verset 5 parle d'une résurrection. Et donc, dans cette option, on pense à une résurrection corporelle. Et le diable, pendant cette période, est complètement inactif jusqu'à la révolte de la fin. Ça, c'est la lecture la plus littérale du texte. On essaie de croire exactement comme c'est décrit. Alors, cette option a plusieurs avantages. D'abord, ça a l'avantage de comprendre qu'il y a pas mal de choses dans la Bible qui sont annoncées et qui alors sont confirmées ici. Le règne de Jésus, par exemple. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, dit 1 Corinthiens 15. La résurrection corporelle, on va annoncer cela, n'est-ce pas? On croit à cette résurrection, elle est à venir. Et il y a des textes aussi dans l'Ancien Testament qui prédisent une situation qui est meilleure que celle que nous vivons sur la terre actuellement, qui est meilleure que celle que Israël a connue et qui ne semble pas coller avec l'éternité. Ésaïe, par exemple, dans son livre, chapitre 61 et chapitre 65, décrivent cette situation. Et donc, mes frères et sœurs pensent que cet âge d'or, en fait, caractérise le millénium à l'avenir sur terre, en présence des ennemis de Christ, qui vont survivre et qui seront présents, mais aussi avec les chrétiens qui seront dans leur corps ressuscités. Deuxième option, c'est que ça se passe au ciel. Là, les 1000 ans sont pris comme symboliques d'une longue période, les chiffres étant par ailleurs symboliques dans le livre de l'Apocalypse. Ça se passe donc après l'ascension de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est monté au ciel, il est monté pour régner, il règne à la droite de Dieu le Père. Et donc ça se passe maintenant depuis que Jésus est au ciel. Mais qui est là, avec Jésus ? Des âmes vivantes. Verset 4 parle d'âmes et pas de corps, remarquez-le. Les âmes dans la présence de Dieu. Pendant cette période, le diable n'est pas inactif. Tout le Nouveau Testament nous porte à croire que le diable est actif aujourd'hui et maintenant, n'est-ce pas ? De diverses manières, il est actif. Mais il est empêché. Le diable est empêché dans son activité et empêché particulièrement de tromper. Verset 3, regardez le verset 3. Il est empêché pour ne pas égarer les nations. Et que se passe-t-il lorsqu'il sort, versets 7 et 8, il sort égarer les nations, c'est la correspondance. Et quand il égare les nations, là, c'est la guerre mondiale contre l'Église. Ça signifie que pour le moment, parce qu'il est limité, des activités chrétiennes peuvent avancer. La bonne nouvelle parcourt la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe en Amérique du Sud, en Corée du Sud, en Chine. Des églises se développent. En Afrique, des personnes croient en Christ aujourd'hui. Même en Europe, des églises commencent, sont implantées. Les personnes entendent la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde, sur Internet, et croient en Christ. La révolte arrivera, oui, mais pour le moment, nous avons un champ libre pour le progrès de l'Évangile. Et l'Église, et les Églises, sont préservées. Oh, le diable aimerait détruire les Églises, qu'elles n'existent plus. Pourtant, toutes ces Églises qui subsistent sont un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour protéger l'Église du diable et des attaques diaboliques. Alors j'avoue que pour mon interprétation, je ne suis pas à 100% sûr. Je dirais que je suis à 90% sûr. Ça veut dire qu'il y a 10% de moi qui est en train de dire « Peut-être, Paul, tu te trompes. » Un de mes amis, qui a un autre point de vue que moi, dit « Tu auras 1000 ans pour te rendre compte que tu as tort. » Et peut-être bien qu'il me faudra un siècle ou deux pour avouer que j'ai eu tort. Mais je vais vous dire pourquoi je penche plus pour cette deuxième interprétation. Pourquoi est-ce que je crois cela ? Il y a diverses raisons qui me persuadent dans ce sens. Il y a un langage symbolique partout en Apocalypse auquel on doit faire face. La description du diable comme un animal, par exemple. Le diable n'est pas un animal. La chaîne qui est spirituelle plutôt que physique. On ne peut pas enchaîner un être spirituel par une chaîne physique. Tout le livre est une image, une vision que Jean a eue plutôt qu'une description. Gog et Magog, qui sont mentionnés ici, ne sont pas des pays. 7, 12 et 1000 sont des chiffres qui sont utilisés de manière symbolique dans le livre de l'Apocalypse. Alors quand nous essayons d'être littéral, parfois ça colle bien avec le texte. Et c'est pour ça que nous avons lu des textes dans les évangiles et les épîtres jusque-là. Mais parfois ça ne colle pas bien avec le texte. Et ça vaut juste la peine de filtrer, de regarder cela attentivement. Puis il faut regarder aussi où sont les trônes. Jésus règne dans le ciel. Au chapitre 4, les trônes sont au ciel. Les âmes des martyrs, au chapitre 6, sont auprès du Seigneur, en attente. Alors quand Jean écrit ce livre, ce n'est pas pour écrire de la théofiction, n'est-ce pas ? C'est pour encourager les chrétiens. Il savait que les chrétiens faisaient face à de grandes souffrances. Et il est très clair. Il connaissait les églises, il savait par quoi il passait. Jésus, bien sûr, aussi connaît les églises de l'époque au 1er siècle à qui Jean écrit, fin du siècle, du 1er siècle. Et quelque part, le message est « nous allons souffrir, mais après, nous allons vivre ». L'autre question que j'ai est une question de logique. Alors, bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais si aujourd'hui, la mort et le péché sont présents dans le monde, et le diable est toujours là et pas encore éliminé, pourquoi est-ce que Dieu amènerait une autre longue étape de l'histoire humaine où la mort et le péché seraient encore présents et que le diable aussi serait là, même s'il est empêché? Pourquoi est-ce que Dieu ferait cette nouvelle étape qui n'est pas si différente de celle que nous vivons? On ne remet pas Dieu en question, n'est-ce pas ? Mais on peut s'interroger seulement, est-ce que nous avons bien compris ? Est-ce que ce sera possible ? que des gens ressuscitent et qu'ils côtoient des gens qui meurent. Et puis d'autres croient en Christ pendant des générations, et puis eux aussi vont ressusciter et avoir leur nouveau corps, et côtoyer des gens qui, en révolte contre Christ, meurent et ne ressuscitent pas. Est-ce possible de voir Jésus régner sur terre dans sa splendeur et dans sa gloire, et pourtant se rebeller et dire « Ah non, ce n'est pas Jésus que je dois suivre » Est-ce que ce n'est pas une question de vue à ce moment-là, plutôt qu'une question de foi? C'est des questions que j'ai. J'ai trop de questions. Et donc je ne peux pas vraiment approuver cela, mais j'ai pensé « Qu'est-ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui sont avec moi et qui ont un autre point de vue que moi ?» Eh bien, je veux vous bénir. Je veux vous bénir. On arrive maintenant à l'aspect pratique de cette prédication. Ce jour-là, vous êtes dans le grenier de grand-père et vous trouvez une caisse. Et dans cette caisse, il y a quelques livres et un beau violon. Alors, vous pouvez regarder ce violon, regarder le bois dont il est fait. Vous pouvez voir les notes, vous pouvez consulter les livres par rapport à l'histoire du violon, vous pouvez même regarder les partitions de la musique du violon. Mais est-ce que ce ne serait pas plus normal simplement de descendre avec le violon et de dire à grand-père, « Grand-père, joue-nous du violon. Fais-nous entendre ce que ce violon peut faire. » Et justement, je crois qu'il y a une bénédiction par les choses que nous avons entendues ce matin. Ce n'est pas mon but de déstabiliser quelqu'un. Nous pouvons être libres de croire différentes choses, n'est-ce pas, à propos de cela, même en soumission à la Bible, bien entendu. On ne veut pas avoir une chasse aux sorcières de quelqu'un qui aurait un point de vue différent de soi. Bien sûr, si quelqu'un nie que Jésus va revenir, ou si quelqu'un dit que Jésus est déjà revenu, ben là, il y a un problème. Mais vu qu'on ne connaît pas les temps et les moments, ce serait un peu dur de critiquer quelqu'un parce qu'il n'a pas compris les temps et les moments dans l'horaire de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous croyez que Jésus va revenir et régner pendant 1000 ans sur terre, que Dieu vous bénisse. Parce que vous voulez prendre la Bible au sérieux et croire ce qu'elle dit. En Apocalypse chapitre 1, verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit ». Et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Ça veut dire bénis sont ceux qui écoutent la parole de la prophétie. Que Dieu vous bénisse aussi parce que vous croyez que la puissance de Dieu sur ses ennemis est absolue. Que Dieu vous bénisse parce que vous voulez que Jésus soit vu. En réfléchissant cette semaine, je me suis dit, qu'est-ce qui anime ceux qui croient en un règne millénaire de Christ sur terre? Je pense que c'est parce que vous voulez voir Jésus reconnu comme roi dans le monde parmi les nations. Il n'est pas encore reconnu actuellement par tout le monde. Et donc que cela puisse se passer, ce serait quelque chose d'excellent. Et que Dieu vous bénisse parce que vous ferez partie de la première résurrection. Notre chapitre 20, verset 6 dit cela. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et bien entendu, tous ceux qui croient en Christ, quel que soit leur point de vue eschatologique, ont participé à cette résurrection avec lui. Mais ce n'est pas l'étape finale. Le millénium, même s'il est à venir, même s'il dure 1000 ans, n'est pas l'étape finale. Et le vrai avenir est différent du millénium. Après, et là nous nous rejoignons tous, après, Jésus va détruire le diable. Il va juger les vivants et les morts. Il va créer un monde nouveau. Et c'est ce que nous attendons. Comme Pierre, le disciple, l'a écrit, conformément à sa promesse, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi dans les prochains messages, nous allons essayer de réfléchir un petit peu à ce que ça donne, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Mais on ne va pas en parler maintenant. Mais je vais vous encourager, tous et toutes. Alors j'ai réfléchi à comment ce texte, cette vérité change notre vie. Ça sert à quelque chose. Et ça sert particulièrement à ce que Dieu nous fortifie, qu'il nous fortifie ce matin pour la semaine, les mois, les années qui viennent. D'abord, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur du diable. Il ne sera pas gagnant. Oui, la puissance du diable peut être effrayante, mais c'est Jésus qui gagne. N'est-ce pas ? Rien ne peut détruire les chrétiens. Même si nous mourons, même si nous sommes physiquement démolis, mis à mort, qu'est-ce qui se passe ? Même si les gens nous persécutent, rien ne peut nous enlever de la main de Dieu. Nous sommes en sécurité. Soyons plutôt fidèles. Soyons fidèles jusqu'à la mort et nous recevrons la couronne de la vie. Nombre de fois, n'est-ce pas, dans cette série, nous avons entendu quelque chose par rapport au retour de Jésus. Et ce que nous avons compris comme pratique pour nous maintenant, ce n'est pas juste sachez des choses sur l'avenir, mais persévérons dans notre foi. Tenez bon dans la foi. C'est un refrain presque chaque fois. Et ici aussi, je vous fais entendre, ça va être affiché aussi, des versets que nous n'avons pas encore lus dans cette série, mais qui font écho à ce que nous venons de lire. En 2 Timothée 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Vous voyez le parallèle ? Mort et puis vivant. Persévérer maintenant et régner plus tard. Alors un dernier encouragement. Cela nous parle de notre adoration. C'était bien qu'on soit déjà dans un élan d'adoration ce matin, mais ces vérités que nous venons de lire doivent nous motiver pour louer davantage et adorer le Seigneur Jésus. Oui, Christ règne dans le ciel. Et il viendra comme roi souverain et glorieux. Nous faisons partie de son royaume. Nous partageons sa vie grâce à lui. Et il nous rendra vivants par sa puissance. Quelle est cette puissance à l'œuvre dans l'Église ? C'est la puissance de la résurrection qui est déployée, Éphésiens 1, envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Musique. Mais alors à quoi ça sert ? Juste pour terminer. À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que cette puissance est à l'œuvre en nous ? Pourquoi est-ce que Dieu nous ressuscitera d'entre les morts ? Oui, on sait que Dieu est puissant, on sait que Dieu peut faire cela. Mais ça sert à quoi ? Eh bien tout simplement pour que nous puissions l'adorer, pour la louange de sa majesté. Dieu veut qu'on l'adore sans fin pour sa grandeur. Vous savez ce que font les gens au ciel ? Vous savez ce que font les gens qui ont des couronnes en or ? Ça doit être beau, une couronne en or. Vous savez ce que font les humains qui sont assis sur les trônes dans le ciel ? Ils font ce que nous allons faire, tout naturellement, quand nous serons là. Car il est écrit au chapitre 4 de l'Apocalypse, « Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ça, c'est notre avenir, frères et sœurs, ça, c'est notre appel. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous disons, tu es digne de recevoir la gloire parce que tu règnes déjà par ta toute-puissance et Jésus à ta droite. Nous avons hâte de voir des choses se réaliser. Nous avouons que nous n'avons pas tout compris. On n'a pas tout compris, mais nous savons qui tu es et nous voulons simplement compter sur toi. Seigneur notre Père, fais-nous la grâce de pouvoir entrevoir des choses spirituelles, des choses éternelles, des choses qui ont de la valeur et aussi de nous préparer pour que de jour en jour nous puissions vivre pour toi dans la joie. Quelle grâce, Seigneur, tu nous as fait. Nous sommes déjà enfants, fils et filles du roi, prince et princesse dans ton royaume. Et un jour, ce que nous sommes sera révélé pleinement. Nous avons hâte de ce jour. Nous avons hâte de voir notre Sauveur. Nous avons hâte d'être enfin libérés. Alors Seigneur, protège-nous, protège notre foi, protège notre Église, que nous puissions compter sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Je signale simplement que je vais envoyer le PowerPoint de ce matin par mail demain. Comme ça, vous avez les références, vous pouvez regarder ça dans la semaine. N'hésitez pas à en profiter.